mesurer ce genre de choses où il est interdit, sauf cas particulier, contrairement à d'autres pays, d'établir par exemple des statistiques ethniques. On n'est pas dans le même cas, mais on peut se demander pourquoi on n'avait jamais mesuré ce genre de choses, en l'occurrence la ségrégation sociale et scolaire dans les collèges et lycées, alors que ce sujet revient sur la table régulièrement. Le constat est accablant, Sonia Bourane, dans une France qui en plus se caractérise par son immobilisme en la matière.
Un élève sur 10 est dans un établissement ghetto et 45% des collèges et lycées forment des classes de niveau. C'est ce que quantifie cette étude, réalisée notamment par le chercheur Arnaud Rigert.
Il y a une ségrégation sociale essentiellement entre les établissements, qui est en bonne partie le reflet de la ségrégation résidentielle, c'est-à-dire que les établissements scolaires vont refléter les disparités géographiques de composition sociale et qu'on observe avant tout dans les zones les plus urbaines. Ensuite, à l'intérieur des établissements, on a une moitié des établissements qui, eux, font plutôt une ségrégation scolaire, donc c'est-à-dire des classes de niveau. Et ces établissements, eux, se trouvent dans tous les types de territoires, que ce soit des zones urbaines ou rurales.
Le latin et les classes bilingues, dont on a beaucoup parlé à propos de la réforme du collège, ne sont pas les seuls critères pour ces classes de niveau. Aujourd'hui, la France est à la traîne en matière de mixité scolaire. Françoise Cartron, sénatrice de Gironde, estime que les politiques ont un rôle à jouer, d'abord en direction des parents.
Les parents, légitimement, ils ont peur. Donc il faut leur expliquer. Aujourd'hui, que la mixité sociale, c'est bon pour leurs enfants. Les politiques, le rôle qu'on a, c'est agir aussi sur le ministère de l'Éducation nationale et leur dire, vous avez un devoir d'excellence pour ces établissements. C'est-à-dire, il faut cesser d'être, je dirais, moins réactif quand il y a des professeurs absents et de ne pas les remplacer.
Aucun remède miracle, mais il existe beaucoup d'outils pour favoriser la mixité scolaire. Certains pays ont fait le choix de politiques volontaristes.
L'étude qui vient de sortir a donc été réalisée par deux chercheurs, Arnaud Rigert, qu'on vient d'entendre, et Thierry Lee, et ce pour le compte du Conseil d'évaluation du système scolaire que vous présidez, Nathalie Mons, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi ce genre d'étude, je précisais tout à l'heure, n'a jamais été faite?
Parce que c'est un tabou. C'est-à-dire que la ségrégation sociale à l'école... Parfois, on en parle, mais on ne souhaite pas, contrairement à d'autres pays, que ça devienne tout à fait transparent.
C'est-à-dire la regarder en face, en quelque sorte.
De toute façon, c'est difficile à regarder en face, puisqu'on est quand même dans une république une, indivisible, où il n'y a pas de différence, théoriquement, entre les établissements.
Donc, on ne veut pas voir.
Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir. Alors là, ça se met un petit peu en mouvement, hein, tout début janvier, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des diagnostics de mixité sociale dans les établissements. Mais on voit quand même que la France est très en retard pour mesurer cette ségrégation sociale, par exemple par rapport aux États-Unis où ça existe depuis les années 70.
Elle montre quoi cette étude d'abord?
Alors cette étude, elle met en évidence trois faits saillants. Premièrement, la ségrégation sociale à l'école en France est forte. C'était une de nos premières interrogations au Conseil national d'évaluation du système scolaire. On en parle beaucoup, mais on ne savait pas quelle était l'ampleur de cette ségrégation sociale à l'école. Juste un indicateur, si on prend les élèves qui sont issus de milieux très favorisés, socialement parlant, par exemple les élèves dont les parents sont chefs d'entreprise, cadres, professions libérales, eh ben, par rapport aux élèves issus de milieux populaires et de classe moyenne, ces élèves de milieux très favorisés ont deux fois plus d'élèves qui leur ressemblent dans leur établissement que les autres élèves. Donc on voit bien qu'on est quand même sur un autre soi. Donc ça, c'est le premier constat, forte ségrégation. Le second constat de l'étude, c'est clairement qu'il existe des établissements ghettos en France. Alors là encore, on en parle, mais c'est la première fois qu'on le mesure.
Qu'on l'écrit.
Et qu'on l'écrit. Très clairement, il existe des établissements où il n'y a quasiment pas, et les classes sociales très favorisées ne sont quasiment pas représentées.
Alors justement, peut-être une parenthèse, on parle de ségrégation sociale, là, pas ethnique, et on confond parfois, non?
Alors, on ne confond pas. Et alors, on a déjà des difficultés en France à mesurer cette ségrégation sociale à l'école. Alors, la ségrégation, je ne sais pas si le terme d'ethnique est vraiment à utiliser, puisque vous avez bien vu que dans le débat public en France, dès qu'on parle de statistiques ethniques en général, hein, au-delà de l'école, on voit bien qu'il y a tout de suite débat. Et puis, du coup, quand il y a débat... Profitons-en pour ne rien faire. Donc l'étude parle strictement de ségrégation sociale et de ségrégation scolaire. Mais la semaine prochaine, nous avons une grande conférence de comparaison internationale. Et là, on essaiera de voir comment notre pays peut vraiment s'emparer de cette thématique. Alors, je ne parlerai pas de ségrégation ethnique, je dirais plutôt de ségrégation de voies migratoires, puisque ce qui nous intéresse finalement, c'est les élèves qui sont issus de l'immigration, première et seconde génération, et on voit bien que, oui, ces élèves, quand on regarde les statistiques, ils ont des résultats scolaires qui sont en décrochage par rapport aux élèves d'autres milieux.
Alors, ce qui apparaît, c'est que le fossé se creuse, en fait, puisque vous nous dites, dans cette étude, que les élèves des milieux défavorisés ont de plus en plus de difficultés dans ces classes. Les meilleurs, au contraire, dans des classes faites pour eux, en quelque sorte, hein, sans qu'on ose le dire, eux progressent plus rapidement. Et puis au milieu, il y a une sorte de ventre mou qui reste un peu comme ça, à la même place.
Oui, au Conseil national d'évaluation du système scolaire, on souhaitait aller au-delà du débat public et au-delà des idéologies, hein, c'est-à-dire au-delà des camps qui s'affrontent sur oui, c'est bien la ségrégation, non, c'est pas bien. Et donc, on a fait une revue de la littérature scientifique pour essayer de voir quels sont les effets de la ségrégation, à la fois sur les apprentissages des élèves, mais pas seulement. Il existe aussi des recherches qui portent sur les effets de la ségrégation, sur les attitudes citoyennes, sur les attitudes civiques, sur la tolérance, sur la santé des jeunes, la consommation des stupéfiants. Et les résultats sont édifiants. C'est-à-dire que sur les apprentissages, on voit bien que les établissements où il y a de la ségrégation sociale et scolaire, dans ces établissements, cette situation est vraiment un frein à la qualité des apprentissages des élèves les plus en difficulté.
Et par ailleurs, du côté de la citoyenneté, il est certain que.
Et du côté de la citoyenneté.
Que quelqu'un issu de l'immigration qui se retrouve avec ses semblables absolument ne se sent pas vraiment français, non?
Oui, tout à fait. On voit bien dans l'ensemble des recherches qui ont été menées aussi dans d'autres pays que lorsqu'il y a ségrégation sociale à l'école, il y a une faible tolérance par rapport à l'étranger, il y a une défiance très importante par rapport aux institutions, il y a peu de participation électorale pour les jeunes par la suite, donc beaucoup d'abstention, hein, c'est là on retrouve cette abstention électorale des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Il y a davantage de consommation de stupéfiants, il y a davantage aussi de maternité pour les très jeunes filles. Donc quand on construit
le coût pour la société est
le terrible. Le coût est énorme et je crois que on peut vraiment parler de bombe à retardement, hein, c'est-à-dire que en ne s'emparant pas de ce problème public, hein, en n'ayant pas mené des politiques volontaristes de lutte contre la ségrégation sociale à l'école, on a vraiment construit une bombe à retardement pour notre société française, hein, puisque ces jeunes, ils seront lancés, hein, dans la société avec de claires difficultés pour le vivre ensemble.
Merci Nathalie Mons. Je vous prends un peu au dépourvu. On peut lire ce rapport entièrement?
Oui, tout le rapport est présenté sur le site du Conseil national d'évaluation du système scolaire.
Merci Nathalie Mons. Merci d'être venue dans les studios de France Inter. Je vous rappelle que vous êtes présidente du Conseil d'évaluation du système scolaire. Et puisqu'on